si on, il faut raconter comment ça se produit, c'est très simple. L'appareil, la confrontation dans ce cadre, provoque beaucoup de problèmes qu'il faut penser à fond. Par exemple, un exemple qui nous a coûté beaucoup à saisir, je parle de l'Argentine, le type de militant, la conception qu'avait le PRT n'était pas une conception de spécialiser les cadres militaires. Bon, les gens faisaient leur cours à Cuba pour être officiers du point de vue interne, plus préparés militairement. Mais la conception était que tout cadre du parti est un cadre politique militaire. Tout militant. Mais ça d'une façon un peu abusive, avec différentes explications. Parce que si un ton problème de construire un parti qui soit. Que l'idée de l'avant-garde, l'idée de l'avant-garde léniniste, je ne veux pas dire qu'avec 300 types on résout le problème. Même un parti d'avant-garde doit être un parti qui essaie de gagner les masses. Pas seulement les diriger, mais les gagner, les organiser. Sinon, il ne va jamais pouvoir être hégémonique. Et l'hégémonie, ce n'est pas d'avoir 51%. L'hégémonie, c'est un parti de cadre avec beaucoup d'implantation et de force. Qui puisse s'exprimer. Pour faire ça, il y a un problème. Comment tu vas te poser cette ambition sans discuter du type de militant que tu crées? Et le type de militant que voulait le PRT, et que la fraction rouge, il y a eu des discussions assez aiguës, et là-dessus la 4 nous a aidés, parce qu'il y a eu une bataille infernale, parce que venait un type de là-bas. Nous, on était en plein dans l'affaire, en plein militarisme. Les gens venaient expliquer, comment vous pouvez être une organisation comme ça? Il faut être un surhomme pour être cette organisation. Il faut être un cadre politique, il faut être un cadre militaire, etc. Comment on va gagner un ouvrier normal là-dedans? Il faut être discipliné avec une discipline militaire en plus. On ne peut pas travailler en usine sans être un cadre militaire. Ça, c'était notre conception. Tout militant doit être un cadre militaire. Mais une organisation ne peut pas se construire seulement avec ce type de gens. Il en faut. Et tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et on peut être dans le train de la révolution et dans la barre qui est ramée et pas forcément être un cadre militaire. Bon, et pour nous, c'était le critère premier. Et c'est comme ça que ça surdétermine le parti. Petite parenthèse, je suis désespéré. Quand on est sorti du PRT en 72, 13, comparé avec les gens du PRT, on était beaucoup plus éduqués, on était trotskistes, on avait lu beaucoup, etc. Mais nous, on était un mélange de la fraction rouge. Nous, on continuait à défendre la ligne du PRT. On n'a pas rompu sur la ligne. C'est pas là-dessus qu'on a rompu. On avait la même ligne militaire que le PRT. On voulait continuer seulement le PRT. Et nous, la direction de la fraction rouge. On disait seulement ceci. Comme la révolution est un peu en retard, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal passées dans l'histoire, et que si ça continue à aller mal, ça va finir très très mal, on était parti par une nouvelle génération de la 4 qui entre dans la 4 parce qu'elle est d'accord avec le programme et le 9e Congrès mondial. Et on nous a dit qu'il ne fallait pas aller dans le PRT pour convaincre quiconque, mais militer là-bas, gagner une autorité en travaillant, et que là on trouverait notre lieu. Et ce type de mentalité qu'on avait s'est combiné avec l'idée de ne plus jamais être propagandiste. Et quand on est sorti, nous, du PRT, les petits 100 militants qu'on était, et que personne ne nous connaissait, on n'était pas sans toute chaud, nous. Notre conception était d'être un petit PRT rouge, pendant un an, au moins. Et on disait, on va faire ici cette revue qui divulgue la pensée internationale ici. Ou bien, est-ce qu'on va devoir faire une action exemplaire aussi rapide qui nous permette de rencontrer un espace entre les deux monstres que sont les Montoneros et le PRT? Sinon, on est condamné, il fallait faire quelque chose au niveau de l'armée. En réalité, on était déjà condamné. Parce que avec l'histoire d'un pays, on ne peut pas jouer. Hein. Le Perté n'était pas né de la veille et les Monteneros non plus, nous si. C'était des produits historiques où s'était retrouvé le meilleur de la radicalisation de ces pays. Nous, on n'était pas là avant. On n'était pas les héritiers de cette continuité-là. Et on a eu l'idée, il faut gagner l'espace en faisant tout de suite une action d'éclat. Il fallait rentrer en concurrence avec le PRT. Ça a développé un volontarisme extrême, pire que celui du PRT, exemplaire, de ce qu'on pensait devoir être le PRT. On a voulu faire mieux qu'eux sur le terrain militaire, avec moins de force et moins d'expérience. Et on faisait tout. On faisait des enlèvements, on achète la meilleure imprimerie possible, on met trois types pour faire toutes les publications. Et ce qu'on ne pouvait pas faire, on payait. On faisait avec l'argent, là où on n'avait pas les forces. Et au début des premiers mois, on a obtenu que toute la ville de Buenos Aires soit couverte d'affiches de la fraction rouge. Où on défendait, où on exprimait nos positions. Des affiches très bien faites, énormes, rouges. Mais qu'on payait une entreprise pour les coller. Parce qu'on n'avait pas les moyens militants de faire. Mais avec les enlèvements et les assauts de banque, on avait les moyens de payer en revanche. Et ça nous donnait une apparition pour être en compétition avec le PRT d'une ville comme Buenos Aires. Je pense que quelque chose qui était une erreur. Mais qui en même temps exemplaire du point de vue du moral révolutionnaire, la combativité qu'on avait. On était pour aller de l'avant. On était un culot énorme. On était convaincus de la perspective du tournant international. Si l'international voulait réellement occuper la place qu'elle pouvait occuper. Donc nous, on était là pour faire ça. Et ça, c'est un problème actuel, toujours. Je crois que c'est un problème clair aujourd'hui dans l'école, tout ça. Donc, on a fait ça. Bon, après, on peut faire toutes les blagues du monde avec ça, toutes les caricatures que vous voulez. Mais il y a une chose, du point de vue du moral révolutionnaire, qu'il ne faut jamais oublier, qui était réellement une réaction extraordinaire, notre petite armée folle, qu'on a... et comme on était un peu plus sophistiqué que le PRT, on voulait en même temps faire un peu de politique. Et on se mettait dans des histoires politiques, dans des réunions, on allait avec le pistolet à la ceinture, dans des réunions politiques. Et dans cette année, on a réussi à trouver le ton. Bon, on a fait mille choses à la fois, sans choisir, de tous les côtés. Bon, ça, évidemment, a commencé à provoquer une crise, parce que dans notre cas concret, la tentative de tension désespérée de trouver cet espace politique était artificielle. De la façon dont on voulait le faire, ça ne marchait pas. L'espace était occupé par d'autres, et ils avaient toute la légitimité historique pour le faire. Nous, on venait trop tard dans cette affaire-là. Donc, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Ni on a réussi à occuper l'espace, ni on est parti de notre réalité réelle pour commencer à faire ce qui était possible. On a fait quelque chose d'un peu schizophrénique, un peu fou, qui nous a condamnés ensuite. Ça, c'est le problème. Parce que c'est pas parce qu'on savait que la situation argentine avait toutes ses caractéristiques et ses possibilités extraordinaires que j'ai décrites, que nous pourrions répondre à ça. Nous, non. Ce petit groupe, non. Mais on aurait pu commencer une expérience. Et là, entre le contexte dans le sein de l'international, à partir d'un certain moment, il y a eu une confluence du débat que fait l'international, d'un début de révision qui commence à faire le Congrès, une pression sur nous. Non, pas une pression incorrecte, une pression de dialogue qui est passée par des débats, par des discussions dans laquelle nous, on a commencé à rectifier notre cours, mais déjà un peu tardivement. Et ça n'a eu aucune importance en Argentine. Que nous, on change notre cours à ce moment-là, c'était déjà trop tard. Et la seule chose qu'il y a à dire de ça, que si on veut confronter certaines choses, on va voir que le début de notre vision critique serait très utile pour le PRT dans la période antérieure, s'il l'avait fait eux. Nous, on l'a fait, mais on était très petits, on comptait pour des nefles. C'est bon pour les archives. Mais dans le PRT, ça aurait été important si on avait entrepris avant. La question du type de militant, comment est-il déterminé, la dynamique de l'organisation, de la vie organisationnelle. Enfin, pour terminer, dans ces éléments qui caractérisaient l'organisation, il y a un autre élément très important qui était la prolétarisation. Et bon, quand on parlait de prolétarisation à l'époque, c'était pas exactement la prolétarisation, le tournant vers l'industrie, qu'il faut que les gens soient à l'usine, etc. Ça peut être utile, hein, de l'encourager. Mais en général, la prolétarisation telle qu'on la concevait, dans le PRT en général et dans la fraction rouge ensuite, c'était une tradition mystique, idéologique. Prolétarisation signifiait quasi une forme de vivre, une mode de vie, une forme de dévouement en partie. Le problème qu'on a eu, c'est que d'un côté, ça renforçait l'exigence totale des militants. Un militant, non seulement devait faire tout militaire, politique, etc., mais il devait être complètement dévoué au parti. Mais malheureusement, c'est devenu une espèce de guillotine permanente, cette morale. Chaque fois que tu levais le doigt pour dire que tu avais un petit désaccord, on te disait le camarade n'est pas suffisamment prolétarisé. Bon. Donc, la version qu'a donnée le stalinisme pratique dans le PRT, c'est qu'on ne pouvait rien dire. Et en faisant un peu de folklore, et quoi, quand ce n'était pas la question de la prolétarisation, c'était la question de Buenos Aires. Parce que chaque fois, les secteurs les plus durs, les plus combatifs et les plus. Et qui ont le moins vacillé, moins mis en cause les lignes du PRT, c'était les gens de la province. Donc chaque fois qu'il y avait des questions, c'était l'équivalent du parisianisme. C'était bon. Les types de Buenos Aires, les intellectuels, la ville, la capitale qui corrompt par rapport à la campagne. Mais ça, c'est vrai. Je sens toute chose, c'était très fort. C'était un type du Nord, et pensait que tous les autres, comme Castro se méfie des types de la Havane. Par la discussion.